Pili.
Pili.
Pili. Pili. Pili.
Par ici les idées.
La radio de l'OCCE.
Bonjour et bienvenue sur Radio Pili. Par ici les idées. Et Bram FM. Vous êtes avec les 4e C du collège Victor Hugo. Vous serez avec moi, seul, Antoine, car il n'y a personne d'autre, malheureusement. Le thème d'aujourd'hui est la justice. Maintenant, commençons. Nos intervieweurs ont rencontré un procureur. Nous parlerons également des symboles de la justice. Des camarades ont fait un micro-trottoir. L'un d'entre eux a demandé l'impression que les élèves ont eue en entrant dans le tribunal de Tulle.
En effet, j'ai demandé à mes camarades ce qu'ils ont ressenti en entrant dans le palais de justice. Voici leur réponse.
C'était la première fois que je rentrais dans un tribunal. C'est frustrant parce qu'on dirait que c'est toi qui vas aller en prison. Donc ça, mon ressenti, j'étais frustré.
Ouais, j'ai trouvé le bâtiment très beau parce qu'il y avait de grandes vitres.
Très grand, très haut et très beau.
J'ai ressenti voler n'est pas bien.
J'ai ressenti du calme, de la sécurité. Il y avait un truc pour détecter les éléments magnétiques. Et il y avait des avocats qui étaient en train de relire leur discours.
Je suis rentré dedans. Ça m'a fait plaisir de voir beaucoup de monde, des monteuses qui parlaient.
Je me suis senti en sécurité. Et puis je me suis senti dans une atmosphère pesante. Un peu bizarre d'ailleurs.
Mon premier ressenti était que j'étais impressionnée et stressée.
Et j'étais impressionnée.
C'était un petit peu pesant l'atmosphère parce que vraiment il n'y a personne qui rigole. Et en mode, ils ont juste dit vous asseyez et voilà. Mais après c'est devenu intéressant. Sauf qu'il y avait une histoire, c'était nul. Il y avait une histoire, un témoignage moins intéressant. J'ai parlé sérieusement. Quand on est arrivé, l'atmosphère c'était pesant parce qu'on a juste expliqué la procédure de on doit se lever, là on allait s'asseoir et on a dit qu'il y aurait des pauses.
Finalement, ils ont apprécié le bâtiment, ils étaient stressés et les affaires judiciaires les ont intéressés.
Justement, commençons par une affaire, l'affaire des chiens. Une femme a été attaquée par des chiens en Haute-Corrèze. Je vous laisse avec Ismaël, il nous donne plus de détails sur cette affaire.
Au mois de novembre dernier, nous avons rencontré une avocate au palais de justice de Tulle. Nous lui avons demandé l'affaire qui l'avait le plus marquée dans sa carrière. Elle nous a parlé d'une affaire de chien en Haute-Corrèze, à la Mazière Basse, le 15 octobre 2020, près d'Aigleton. En fin de journée, une femme qui s'est faite attaquer par un groupe de chiens. La vieille femme qui marchait pour se balader quand soudainement, 5 chiens de race Cane Corso et un bulldog anglais l'ont attaquée et lui ont déchiqueté les 4 membres de son corps. Ils l'ont laissé dans cet état et puis un jeune homme qui roulait en voiture a aperçu une forme étrange à terre et a compris que c'était un corps, mais il resta dans sa voiture pour se protéger des chiens et appela la police. Les policiers même se sont fait attaquer par ces chiens. L'affaire est allée jusqu'au tribunal, mais nous avons découvert que les chiens appartenaient à une femme qui les avait laissés en liberté. La femme les a eu 2 ans de prison. Ferme avec 6 mois de sursis, l'avocate qui l'avait défendue, Maître Pouget, a vraiment été touchée par l'affaire. Elle nous a parlé de l'horreur des photographies lors du procès, des menaces de mort sur les vétérinaires chargés d'euthanasier les chiens. Maître Pouget a expliqué qu'elle avait tissé des liens très forts avec la vieille femme et qu'elle, lorsque elle a appris récemment son décès, elle en a été très triste. On sentait encore toute son émotion quand elle nous a raconté cette histoire. J'espère que l'affaire que nous venons de vous raconter vous a intéressé, comme nous qui nous avons été encore marqués par cette histoire. Nous en sommes encore troublés aujourd'hui. Bien, à bientôt, cher auditeur Ismaël.
À présent, Thomas nous présente une autre affaire. Un dealer a sorti des olives de cannabis de son anus.
Bonjour, le 17 octobre dernier, nous sommes allés au palais de justice de Tulle assister à des audiences. Je vais vous présenter un jeune homme qui est allé à Limoges en prison car il vendait des stupéfiants. Il avait d'abord été condamné pour transport de stupéfiants en camion à 1 an de prison et 9 mois avec sursis. Il devait porter un bracelet électronique. Il était à la fin de sa peine mais repassé au tribunal parce qu'il avait récidivé. Il avait caché de la drogue dans un ventilateur de la prison et un surveillant, par le ton de sa porte, l'avait vu sortir des olives de cannabis de son anus.
Le procureur lui a demandé s'il avait prévu quelque chose à sa sortie. Un métier, une formation. Il a répondu que non, mais qu'il venait d'avoir une petite fille et voulait s'en occuper. Le procureur a demandé une prolongation de sa peine le temps qu'il réfléchisse et répare son avenir. Cette histoire m'a marqué car ce jeune homme avait une toute petite fille et au lieu de s'en occuper, il avait continué à vendre des stupéfiants. Du coup, il n'aurait pas en profité.
Une affaire qu'on pourrait retrouver dans un film. Occasion, justement, de parler de la justice dans les films avec Rafaela, Elia et Shaina.
La justice est un thème souvent abordé dans les films, sous forme de documentaires et d'histoires tirées de faits réels, comme dans les œuvres que nous allons vous présenter.
La Ligne Verte est une œuvre réalisée par Franck Darabont et parue en 1999. Ce film inspiré de faits réels nous dévoile la vie de John Coffey, un jeune afro-américain. Un jour, il est retrouvé au bord d'une rivière avec le cadavre de deux petites filles disparues la veille au soir. Lorsqu'il est retrouvé, il est directement arrêté par la police. Le voisinage et les parents des deux victimes sont convaincus que John est le responsable. Il est jugé coupable et envoyé dans le couloir de la mort. Cependant, à son arrivée au pénitencier, le policier découvre une personne beaucoup moins dangereuse que son imposante apparence pourrait laisser croire. Il entretient un lien particulier avec le gardien-chef, Paul, interprété par Tom Hanks, en réalisant des miracles et des guérisons surnaturelles auprès des autres détenus. En réalité, cette histoire s'avère d'autant plus tragique. En effet, le véritable accusé était âgé de 14 ans et se nommait George Tinney. Il est l'un des plus jeunes accusés à tort de l'histoire. Son procès n'a duré que 2 heures, au cours desquelles aucun témoin n'a été appelé à la barre par l'avocat de la défense. Le verdict du jury a été prononcé après environ 10 minutes de délibération et le matin du 16 juin 1944, il fut donc exécuté sur la chaise électrique.
On aurait aussi pu parler du Bréau. Une jeune fille défavorisée intègre une école de droit prestigieuse. Elle veut participer à un concours d'éloquence, mais le professeur qui doit l'aider à se représenter trouve qu'elle n'a pas de bonne manière, ne sait pas s'exprimer. Au fil du temps, il se résout à l'aider, si bien qu'elle devient avocate. Et le professeur change d'avis et décide de fonder une école de droit pour aider les personnes en situation peu favorable. Nous aurions également parlé du film L'Affaire Romanji, avec pour acteur principal Denzel Washington. Il interprète le rôle d'un avocat commis d'office au quotidien banal. Malgré son apparence peu convaincante, il est capable de monter un dossier béton en une semaine et tente bien que mal de mettre ses capacités au service de la population et de se créer une identité propre.
Il y a donc différentes manières d'aborder la justice au cinéma, par l'inspiration de faits réels ou par la fiction. Nous espérons que notre filmographie vous inspirera.
Merci Rafaela, Elia et Shaina. Les affaires du judiciaire ne seraient à rien sans le métier de juge. Mélinda nous donne plus de détails sur cette profession.
Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le métier de juge qu'on a pu observer lors d'un procès au palais de justice de Tulle. Quels sont les différents juges? Le juge au tribunal de grande instance tranche l'ensemble des conflits entre particuliers, alors que le juge d'instance ne traite que des affaires impliquant des montants compris entre 4 000 euros et 10 000 euros, endettement, litige entre locataire et propriétaire par exemple. Le juge aux affaires familiales est chargé des affaires de divorce et d'autorité parentale. Le juge des contentieux tranche les litiges civils portant sur les baux d'habitation et les crédits à la consommation. Le juge d'instruction dirige les enquêtes pénales et supervise les investigations policières. Il décide de la mise en place ou du non-lieu. Le juge des libertés et la détention statue sur la détention provisoire et sur les remises en liberté et ou non des prévenus. Le juge de l'implication des peines détermine les mesures applicables aux détenus après leur jugement. Il a aussi compétence sur le suivi du contrôle judiciaire ou sur les personnes en liberté conditionnelle. Enfin, le juge des enfants sanctionne les mineurs délinquants tout en privilégiant la mesure éducative. Dans tous les cas, le juge ne prononce son jugement qu'après avoir étudié le plus objectivement possible le dossier et entendu les parties exposer leurs arguments. Lui seul fixe les sanctions et les peines. Les magistrats du siège sont indépendants. Ils doivent pouvoir exercer leurs fonctions en toute liberté vis-à-vis du pouvoir politique. Comment devient-on juge ? Le métier est accessible par voie de concours, niveau Bac plus 4. Une fois reçus, les lauréats suivent une formation rémunérée à l'École nationale de la magistrature, dont le siège est à Bordeaux, formation accessible uniquement par concours. L'essentiel des recrutements a lieu à partir d'un concours externe, dit premier concours très sélectif pour les titulaires d'un Master 1 de droit, de préférence au droit pénal, ou d'un diplôme d'IEP. On peut se présenter à ce concours jusqu'à l'âge de 31 ans. Un deuxième concours est ouvert sans condition de diplôme à des candidats fonctionnaires âgés de 48 ans et 5 mois maximum et justifiant de 4 années de service public. Enfin, quelques candidats âgés de 40 ans maximum et justifiant 8 ans d'expérience en entreprise ou titulaires d'un mandat électoral peuvent être admis à se présenter à un troisième concours. Les candidats de nationalité française obligatoire peuvent se présenter au maximum 3 fois à un concours, des 3 concours d'accès à l'ENM. À l'issue de la formation qui dure 31 mois sous le statut d'auditeur de justice, et les jeunes diplômés choisissent leur affectation en fonction de leur classement et de leur poste disponible. L'ENM encadre les classes préparatoires aux concours d'entrée réservés à des jeunes issus de milieux défavorisés. Quels sont les salaires et les évolutions de carrière ? Début de carrière, 2731 € net mensuels. Au bout de 6 ans, 3662 € net mensuels. En fin de carrière, 6999 net mensuels. L'évolution de la carrière. Au cours de sa vie professionnelle, un magistrat peut s'occuper des postes différents en tant que juge ou bien passer du siège au parquet et inversement. En effet, la mobilité géographique et ou fonctionnement est encouragée dans la magistrature. Elle s'exerce généralement tous les 5 à 7 ans et souvent plus rapidement en début de carrière. Après quelques années d'expérience professionnelle, il peut également assumer des fonctions de haute responsabilité, tels que vice-président et président de tribunal ou procureur de la République, ou travailler dans l'une des directions de l'administration centrale du ministre de la Justice. Dans tous les cas, il bénéficie d'une progression dans la grille indiciaire. Pour conclure, si vous voulez un métier, choisissez juge, mais il faudra faire beaucoup d'études et plusieurs concours.
Merci Mélina. Nombreuses sont les professions rencontrées dans un palais de justice.
Oui, j'ai justement demandé aux élèves de notre classe quel métier ils pratiqueraient s'ils travaillaient dans un palais de justice.
Avocat.
Sécurité.
Sécurité ?
Moi pareil, sécurité, garde.
Avocat.
Moi si je travaillais au palais de justice, je crois... Je sais pas.
Bon, moi je dis ça, ce sera... Je pense avocat... Non, procureur. Pour juger les gens, pour les mettre des peines.
D'accord.
Parce que moi, je suis un bon garçon.
Je pense que mon travail, ça serait être avocat.
Avocat, parce que je trouve que c'est très bien payé. Et le métier
tu
est assez
viens
simple.
Juste pour l'argent, toi. Hein.
Ouais, le payer, ouais.
Avocat.
Sécurité.
Ce que je voudrais faire si je travaillerais dans un palais de justice, avocate.
Parce que ça paye bien.
Moi, je serais l'accusé. Juge, parce que c'est un métier où tu juges les gens. Et
ouais,
que c'est.
Bien jugé, toi.
J'adore juger.
Avocate. Parce que j'aime bien défendre les gens.
Bah, je voudrais devenir avocate. Parce que c'est un métier qui m'intéresse et tout.
Procureur, pour te mettre en prison.
Procureur, pour gagner beaucoup d'argent. Et juger des personnes, pour plaisir. L'argent, ça ne sert à rien. C'est l'amour qui va te résoudre.
Beaucoup de collègues ont choisi la profession d'avocat, mais certains ont cité aussi le métier de procureur.
Et justement, un procureur a accepté de répondre nos questions pour Pili. Par ici les idées, n'est-ce pas Clovis et Kylian ?
Oui, nous accueillons pour répondre à nos questions. Il nous a tout d'abord dit pourquoi il a choisi ce métier.
Pourquoi après j'ai choisi ce métier de procureur ? C'est parce que je souhaitais être au service de l'État, peser sur les situations des personnes, et que le droit m'intéresse. Donc c'est un peu pour ça qu'au départ, je me suis inscrit dans cette branche-là. Quand vous êtes procureur de la République, vous avez un travail très important avant l'audience. Le premier travail du procureur, c'est de diriger les enquêtes de police et de gendarmerie. Le dossier qui arrive à l'audience, que vous avez vu en novembre, c'est un produit qui est déjà presque terminée. Il reste l'audience. On a fait un gros travail avant. Et ce travail, c'est le procureur qui le mène en dirigeant les enquêtes, c'est-à-dire que les gendarmes et les policiers vont enquêter sur des affaires. On a une plainte, on a un vol, on a des violences. Ils vont entendre des personnes, interroger des personnes, faire des perquisitions, faire des constatations. Et tout ça, ils le font sous mon contrôle. Donc ça, c'est mon premier travail de préparation, en quelque sorte. Je construis avec les enquêteurs ce dossier. Une fois qu'il est terminé, le dossier, que j'ai une infraction, que j'ai un auteur, c'est moi qui vais décider ou non d'envoyer le dossier, de poursuivre la personne à l'audience. Je peux faire autre chose, et on développera si vous voulez. Donc ça, c'est pour la phase avant l'audience. Une fois que le dossier est envoyé à l'audience, ben, je le lis, je regarde ce qu'il y a dans le dossier, je lis les procès-verbaux qu'ont rédigé les enquêteurs, je prépare quelques petites notes, et j'ai déjà une idée de ce que je vais demander, d'abord en démontrant la culpabilité de la personne, et ensuite, au vu de la gravité des faits, mais aussi de ce qu'on appelle son casier judiciaire, est-ce qu'il a déjà ou pas été condamné, je vais déjà réfléchir à une sanction que je pourrais requérir, que je pourrais demander au juge. Mais en termes de notes, en termes d'écrit, je ne prépare pas grand-chose. Quand j'ai commencé, quand j'étais jeune magistrat, j'écrivais davantage mes réquisitions. Maintenant, je prends quelques photocopies de pièces qui me semblent importantes, je mets quelques idées, et très très peu en l'occurrence d'idées, et après c'est comment l'audience se déroule, je note ce que va dire la personne, je vais requérir, mais avec ce qui me semble pertinent au moment où je le requiers. Je n'écris pas à l'avance mes réquisitions, voilà, pour être plus clair.
À quelle heure commence une journée de procureur et à quelle heure se termine-t-elle ?
La journée du procureur commence à minuit et elle se termine à 23h59. Ma journée de travail, c'est une journée de travail normale, mais quand vous êtes procureur, vous êtes toujours joignable parce que si quelque chose d'important se passe, vous devez être joignable. Ce que vous devez retenir, c'est que dans le parquet de Tulle, nous sommes trois magistrats du parquet. Il y a un procureur, un vice-procureur et normalement un substitut. Le procureur, je vous ai dit tout à l'heure, qui contrôlait les enquêtes de police et de gendarmerie. Ça, il le fait tout le temps. C'est-à-dire que si on a une affaire grave qui se passe à 2h du matin, par exemple, il peut y avoir un meurtre, ça peut arriver. On découvre une personne qui est décédée, manifestement elle a été tuée par quelqu'un, donc les policiers vont être appelés, ils vont me téléphoner, et moi je vais me déplacer, quelle que soit l'heure. Donc on a un magistrat du parquet de permanence, un procureur, au sens procureur, vice-procureur, substitut, qui est de permanence tout le temps, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc bien sûr on tourne. Moi je l'étais jusqu'à ce matin, c'est pour ça que je suis un peu en retard, et je l'ai passé à ma collègue. Donc je peux être appelé à tout moment. Mais en plus quand vous êtes procureur, vous pouvez aussi être appelé pour des affaires très graves. Il y a des choses qui peuvent être plus graves que d'autres et où le substitut, le vice-procureur, va aussi tenir informé son procureur. Donc en quelque sorte, quand vous êtes procureur, vous êtes toujours joignable tout le temps, tous les jours de l'année, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Après, sur mon temps de travail, je dirais normal, je vais arriver au travail vers 8h30, 9h, et sauf si j'ai une audience qui finit tard, je vais pouvoir partir à 18h30 ou 19h. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas travailler chez moi parce que j'aurai une urgence à régler, vous voyez ?
Et quels sont les avantages et les inconvénients du métier ?
Les avantages de ce métier, c'est que c'est un métier qui vous permet de rencontrer des tas de personnes. Donc un métier qui est centré sur l'humain, un métier qui est aussi très varié. C'est-à-dire que si vous m'interrogiez, et souvent les étudiants le font, sur ce qu'est une journée type du procureur, je ne pourrais pas vous répondre. Parce qu'il n'y a pas de journée type. C'est-à-dire que chaque journée va être différente de l'autre. Quand vous êtes de permanence, le téléphone sonne. Quand le téléphone sonne, vous ne savez pas si on va vous appeler pour quelqu'un qui aura commis un vol à l'étalage, ou quelqu'un qui aura commis des violences, ou pour un accident mortel, dans le cadre du travail, de la circulation, ou pour un meurtre. Vous ne savez pas, cette sonnerie, ce qu'elle va vous apporter. Quand vous commencez votre permanence, vous ne savez pas si vous aurez à gérer 2 gardes à vue dans la semaine ou 20. Vous ne savez pas si vous aurez beaucoup de dossiers ou pas beaucoup de dossiers. Par ailleurs, il y a des moments où vous êtes à l'audience, en robe, c'est ce que vous avez vu, des moments où vous êtes au téléphone dans votre bureau, des moments donnés où vous êtes en réunion, des moments où vous êtes avec des collégiens. Donc vous faites des tas de choses très différentes dans votre travail. C'est de l'oral, c'est de l'écrit. Vous voyez des gens très différents, des partenaires de la justice, des avocats, des enquêteurs, des administrations, des médecins, des assistants sociaux, mais aussi des justiciables. Les gens que vous rencontrez dans votre travail, on appelle ça des justiciables, qui sont présentés devant la justice, c'est tous des gens différents. Donc ça, c'est passionnant. Donc ce côté humain, ce côté diversifié, côté dynamique, et moi, j'aime effectivement beaucoup le fait de pouvoir peser sur les situations. C'est ce que j'ai dit en préambule. Quand vous êtes procureur, c'est pas vous qui décidez à la fin de la sanction, c'est le juge. Mais néanmoins, quand vous décidez d'orienter une affaire en comparution immédiate, c'est-à-dire quelqu'un qui a été placé en garde à vue, on l'a interrogé, les faits sont constitués, vous allez le faire venir tout de suite au tribunal. Ça, c'est une décision que vous prenez. Ça a de l'importance. Si vous aviez décidé plus tôt de le convoquer devant un délégué du procureur pour un rappel à la loi, ça n'existe plus, pour un avertissement, disons, c'est pas la même chose. L'inconvénient du métier, j'en vois pas vraiment parce qu'il me passionne. Maintenant, c'est vrai que les astreintes que j'évoquais avec vous tout à l'heure, le fait d'être joignable la nuit, évidemment, c'est une charge, si vous voulez, c'est quelque chose qui peut être fatigant et qui limite vos congés. Vous pouvez pas, quand vous êtes de permanence, vous ne pouvez pas partir à 300 km, donc vous êtes obligé de rester assez proche de votre tribunal. Donc ça, c'est une contrainte. Et les permanences, c'est une contrainte, bien sûr. Ce qui est beau dans mon métier, c'est quand vous avez, quand vous créez un lien, un contact avec celui que vous avez en face de vous, qu'il soit auteur ou victime. L'audience, ça sert aussi à ça. Ça sert à entendre les personnes que vous avez face à vous. L'ancien directeur de l'école de la magistrature disait que pour être magistrat, il faut chercher à comprendre, savoir écouter et vouloir décider. Et ça, c'est trois qualités qui sont, je crois, essentielles dans mon travail. C'est d'abord l'écoute des gens. Quand j'ai quelqu'un face à moi, je vais chercher à le comprendre. Même, voire surtout celui qui a commis une infraction. Pourquoi est-ce qu'il l'a commise? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Donc ça, c'est important, quand je l'interroge, le juge l'interroge beaucoup, mais moi ça peut m'arriver, c'est de comprendre. Parce que si je réussis à comprendre cet individu, je vais mieux le juger. Parce que juger, c'est mon travail, vouloir décider, c'est mon travail. Je prends 100, 200 décisions par jour. Et donc, il faut aimer prendre une décision aussi. Hein.
Le procureur ne travaille pas seul. Il rencontre en effet d'autres professions, n'est-ce pas, Chloé?
Oui, il explique pour comment le travail de greffier.
Alors, le métier de greffier, c'est un rôle essentiel qui n'est pas forcément toujours très visible. Mais le greffier, c'est celui qui travaille avec le magistrat et qui va être garant de la procédure. Vous avez devant vous un code pénal, un code de procédure pénale. Le code pénal, c'est ce qui définit les infractions. Qu'est-ce qui est interdit? Le code de procédure pénale, c'est ce qui définit comment on va traiter les infractions, les enquêtes et les actes de justice. Et donc, un greffier va être là. Quand vous allez juger quelqu'un, il y a toujours un greffier qui va noter ce qui s'est passé. Est-ce que le juge a bien notifié les droits à la personne? Est-ce qu'on a bien mis les bonnes infractions? Il va vérifier que la procédure s'est bien déroulée. Il va aussi assister en matière civile au magistrat, il va faire des convocations. Sans un greffier, on ne peut pas juger les gens. C'est eux qui vont s'assurer des convocations, de l'exécution de la décision de justice, de toute la procédure. Donc, ils ont vraiment un rôle fondamental, même si, encore une fois, ils ne sont pas toujours très visibles lorsqu'on parle de la justice. C'est les mêmes études que les magistrats, des études de droit. La plupart du temps, d'ailleurs, les greffiers ont le même niveau d'études que les magistrats, bac plus 4, bac plus 5, et on était dans les mêmes universités souvent, donc c'est les mêmes études. Le concours n'est pas le même, il peut être passé de mémoire à bac plus 3, vous vérifierez avec le professeur si ça n'a pas changé, mais je pense que c'est ça, mais généralement ils ont un niveau d'études un peu plus élevé.
D'autres professions sont décrites par ce même procureur. Oui, dans cette interview, nous lui posons des questions sur les professions de juge et d'avocat, car au début nous souhaitions poser des questions à un juge, mais nous n'avons pas pu.
En quoi consiste le métier de juge? C'est une question très compliquée parce que il y a des fonctions très différentes quand vous êtes juge. Le juge, à la fin, il va trancher un litige, prendre une décision, rendre un jugement. Donc il peut trancher un litige en matière civile. Par exemple, vous avez un litige avec un commerçant, vous n'êtes pas un litige avec votre voisin, vous n'êtes pas d'accord, et le juge va dire qui de vous ou du voisin a raison sur une demande qui serait faite. Vous avez un juge aux affaires familiales, des parents divorcent et ils ne sont pas d'accord sur celui qui va avoir la garde, comme on dit de manière classique, de l'enfant. Donc c'est le juge aux affaires familiales qui va trancher cette question. Vous avez un juge des enfants. Lorsque des enfants sont en danger dans leur famille, ils peuvent être, dans les dossiers les plus graves, être placés, c'est-à-dire retirés de la famille et confiés à une famille d'accueil ou dans un foyer. C'est un juge des enfants qui va prendre cette décision. En matière pénale, le juge, il va, une fois que j'aurai pris mes réquisitions, il va dire si la personne est coupable et c'est lui qui va prononcer la peine. Donc le juge, c'est lui qui rend un jugement, qui va prendre les décisions à la fin dans toutes les procédures qui lui sont soumises. Il y a aussi un juge d'instruction qui va
enquêter sur les dossiers les plus graves, les plus complexes, notamment en matière de crime où c'est obligatoire. Il y a un juge d'application des peines qui va aménager ou s'appuyer sur les aménagements de peine. Quand quelqu'un est condamné à une peine de prison, d'emprisonnement, il ne va pas forcément être incarcéré. Il peut voir sa peine de prison transformée en bracelet électronique. Ça, c'est notamment le juge d'application des peines qui va le décider et suivre cette mesure ensuite.
Quels sont les avantages et les inconvénients du métier d'avocat selon vous ?
Alors c'est très difficile à répondre parce que je ne suis pas avocat, je ne l'ai jamais été. Et donc là, je pense qu'il est préférable que vous interrogiez un avocat sur cette question. Le rôle de l'avocat, lui, ça va être de défendre son client et d'éclairer le juge dans l'intérêt de son client. Mais pour le reste, c'est à un avocat de vous répondre.
Quels sont les avantages et les inconvénients du métier de juge selon vous ?
Je n'ai jamais été juge, j'ai toujours été procureur. Donc c'est pareil, je pourrais difficilement vous répondre sur cette question. Il faudrait plutôt interroger un juge, puisque je peux avoir moi une vision de ce qu'est leur sentiment sur leur métier, mais ça ne serait pas forcément ce qu'eux ressentiraient. Bon, il y a des traits communs avec le métier du parquet. Il y a des juges qui sont de permanence aussi, comme les procureurs, mais c'est moins... La permanence, elle est moins lourde parce qu'ils n'ont pas ce suivi des enquêtes en temps réel. Ça, c'est le procureur. Après, certains évoquent le sentiment de solitude parfois du juge qui prend sa décision. Mais c'est très relatif, ça dépend de ce que vous faites comme fonction.
Mais il ne nous a pas pu répondre sur les questions qu'on devait poser à un avocat car il n'en était pas un.
Oui, mais lui, en tant que procureur, quel rapport entretient-il avec les avocats ? Il nous répond.
En quoi consiste le métier de juge ? C'est une question très compliquée parce que il y a des fonctions très différentes quand vous êtes juge. Le juge, à la fin, il va trancher un litige, prendre une décision, rendre un jugement. Donc il peut trancher un litige en matière civile. Par exemple, vous avez un litige avec un commerçant, vous n'êtes pas un litige avec votre voisin, vous n'êtes pas d'accord, et le juge va dire qui de vous ou du voisin a raison sur une demande qui serait faite. Vous avez un juge aux affaires familiales, des parents divorcent et ils ne sont pas d'accord sur celui qui va avoir la garde, comme on dit de manière classique, de l'enfant. Donc c'est le juge aux affaires familiales qui va trancher cette question. Vous avez un juge des enfants. Lorsque des enfants sont en danger dans leur famille, ils peuvent être dans les dossiers les plus graves, être placés, c'est retirés de la famille et confiés à une famille d'accueil ou dans un foyer. C'est un juge des enfants qui va prendre cette décision. En matière pénale, le juge, il va, une fois que j'aurai pris mes réquisitions, il va dire si la personne est coupable et c'est lui qui va prononcer la peine. Donc le juge, c'est lui qui rend un jugement, qui va prendre les décisions à la fin dans toutes les procédures qui lui sont soumises. Il y a aussi un juge d'instruction qui va enquêter sur les dossiers les plus graves, les plus complexes, notamment en matière de crime où c'est obligatoire. Il y a un juge d'application des peines qui va aménager ou s'appuyer sur les aménagements de peine. Quand quelqu'un est condamné à une peine de prison, d'emprisonnement, il ne va pas forcément être incarcéré. Il peut voir sa peine de prison transformée en bracelet électronique. Ça, c'est notamment le juge d'application des peines qui va le décider et suivre cette mesure ensuite.
Quels sont les avantages et les inconvénients des métiers ? Du métier d'avocat selon vous ?
Alors c'est très difficile à répondre parce que je ne suis pas avocat, je ne l'ai jamais été. Et donc là je pense qu'il est préférable que vous interrogiez un avocat sur cette question. Le rôle de l'avocat, lui, ça va être de défendre son client et d'éclairer le juge dans l'intérêt de son client. Mais pour le reste, c'est à un avocat de vous répondre.
Quels sont les avantages et les inconvénients du métier de juge selon vous ?
Je n'ai jamais été juge, j'ai toujours été procureur. Donc c'est pareil, je pourrais difficilement vous répondre sur cette question. Il faudrait plutôt interroger un juge, puisque je peux avoir moi une vision de ce qu'est leur sentiment sur leur métier, mais ça ne serait pas forcément ce qu'eux ressentiraient. Bon, il y a des traits communs avec le métier du parquet. Il y a des juges qui sont de permanence aussi, comme les procureurs, mais c'est moins... La permanence, elle est moins lourde parce qu'ils n'ont pas ce suivi des enquêtes en temps réel. Ça, c'est le procureur. Après, certains évoquent le sentiment de solitude parfois du juge qui prend sa décision. Mais c'est très relatif, ça dépend de ce que vous faites comme fonction.
Il entretient donc des rapports réguliers avec les avocats. Il se retrouve quotidiennement dans le palais de justice.
Posez plusieurs questions aux procureurs sur le lieu du palais de justice, comme à quoi sert la salle des pas perdus.
La salle n'est pas perdue. C'est là où les gens peuvent aller très librement, en se soumettant néanmoins à un portique de sécurité, bien sûr, pour contrôler qu'ils n'ont pas sur eux d'objets métalliques. Cette salle n'est pas perdue va desservir, va donner l'accès aux salles d'audience, qui sont les salles où on va rendre la justice. Donc on a en face la grande salle, qui est la salle de la cour d'assises, mais où on juge aussi les comparutions immédiates, toutes les affaires pénales. Et ensuite, vous avez à gauche et à droite deux autres salles qui sont plus petites, où on a moins de public, qui sont les salles où on prend les audiences civiles, quand vous avez un litige civil, ou les audiences pénales où il y a un petit peu moins de monde. Et donc ces salles, elles sont directement accessibles, sans filtrage supplémentaire, sans badge supplémentaire. Dès l'instant que vous entrez dans le palais après le portique de sécurité, vous avez accès à ces salles, parce que la justice est publique. En revanche, vous avez ensuite les couloirs où se trouvent les bureaux des magistrats, où là, il faut un badge pour entrer, parce qu'autant le public a le droit d'assister aux audiences, autant il n'a pas vocation à aller dans les bureaux comme ça des magistrats. Si vous voulez dans les bureaux, vous avez les dossiers, il y a une forme de secret. Donc effectivement, c'est bien disposé. Vous avez une partie qui est publique et une partie qui n'est pas publique. Ce qui est public, c'est les salles d'audience, sauf quand le procès est à huis clos, quand ça concerne des mineurs, bien sûr.
Pourquoi la partie où se trouve la juge est-elle en hauteur? Cette partie de la salle a-t-elle un nom?
C'est une très bonne question. Pourquoi est-ce que la partie où se trouve le juge est en hauteur? C'est des strates, c'est peut-être pour signifier la distance malgré tout entre le public et l'autorité judiciaire. Puis alors, est-ce qu'il y a un nom, qu'on a un nom particulier pour les strates sur lesquelles se trouve le juge? J'en ai aucune idée. Alors, ce qui est vrai, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez dû remarquer qu'en France sont en hauteur le greffier, le juge et le parquet. Vous avez vu. Et sont plus bas les avocats et les parties. Dans le système français, le magistrat du parquet, il est un peu en hauteur comme le magistrat du siège. Il y a des systèmes judiciaires où l'avocat, notamment aux États-Unis, il est au même niveau que l'avocat de la défense et de la partie civile, parce que ce n'est pas le même système. Nous, les magistrats du parquet sont rattachés au juge, en tout cas c'est l'unité du corps. Les magistrats sont soit du parquet, soit du siège, et donc on est placé au même niveau dans la salle d'audience.
Y a-t-il des objets symboliques dans le palais de justice?
C'est une très bonne question là encore. Je n'identifie pas d'objets symboliques dans nos palais de justice. Il n'y a en tout cas pas d'objets religieux comme dans certains systèmes. Il n'y a pas de balance, je ne l'en vois pas. Il y a parfois écrit, souvent d'ailleurs, sur le plafond, la justice est rendue au nom du peuple français, où les hommes naissent et demeurent libres et égaux. C'est un rappel des principes. Il y a sur le fronton du tribunal, liberté, égalité, fraternité. Il y a sur celui de Tulle spécifiquement une balance et je crois un symbole médical qui est lié au fait et que pendant la guerre 14-18, le palais de justice a servi d'hôpital. Mais sur la salle d'audience ou dans le palais de justice, je n'identifie pas spécifiquement des symboles, mais peut-être n'y fais-je pas attention. Marianne? Comme mon tribunal, c'est mon quotidien, peut-être ne les vois-je pas parce que je les ai intégrés comme étant une partie de mon tribunal. Mais vous regarderez en partant si vous en trouvez des symboles. Ça va être un bon exercice.
Le procureur nous a donc expliqué que la salle des pas perdus amène à plusieurs salles et qu'il y a des couloirs qui amènent à des bureaux grâce à un badge. Il nous a expliqué aussi que pendant la guerre, le palais servait d'hôpital.
Le palais de justice est un lieu vraiment particulier. La justice dispose d'ailleurs de symboles qui lui sont propres, comme nous l'explique Mathis.
Aujourd'hui, je vais vous parler des symboles de la justice. On sait que la justice est représentée par une femme qui tient une balance dans la main droite, un glaive dans sa main gauche. Elle a un bandeau sur les yeux. Mais pourquoi ces symboles? Ces symboles veulent rappeler la primauté du droit et dire que la loi doit être juste et égale pour tous. Commençons par le bandeau. Il représente l'impartialité. La justice, les yeux bandés, ne voit pas les accusés. Et elle les juge donc avec objectivité. La balance vient de la religion égyptienne, puis chrétienne. La balance est l'instrument de la pesée des âmes, puis elle représente l'équité. Si les deux plateaux sont à l'équilibre, alors les décisions ont été rendues de façon équitable. La balance est enfin l'équilibre, la base de la société que la justice est chargée de préserver. Enfin, le glaive symbolise l'aspect répressif de la justice. Il rappelle que le rôle de la justice est aussi de sanctionner. Il rappelle que la justice n'est rien sans la force qui permet de la faire appliquer. Vous en savez maintenant plus sur ces symboles. Et vous, si vous deviez trouver un objet pour représenter la justice, quel serait-il?
Vous l'avez compris, plusieurs affaires nous ont intéressés lors de notre visite du palais de justice. Avec par exemple une histoire d'abus de faiblesse et des soucis avec un auto-entrepreneur, Meryl.
En octobre dernier,
on est allé à une audience au palais de justice de Tulle. Est une des affaires a retenu particulièrement notre attention. L'abus de faiblesse. Une femme s'était faite embaucher comme auxiliaire de vie auprès d'un vieil homme. Au fil des années, leurs relations ont changé. En relation amoureuse, le monsieur a commencé à perdre la tête et quand il est rentré en maison de retraite, son chéquier avait disparu ainsi que deux meubles. Le monsieur a porté plainte à la police contre la femme.
Elle disait qu'elle avait pris avec son consentement, mais le personnel médical a dit qu'il n'avait pas la capacité de faire quoi que ce soit. Il a signé un papier autorisant la donne. On n'a pas pu assister au verdict. On était frustrés, persuadés que la femme avait tort dans sa manière de parler.
On ne sait pas si l'accusé a finalement été jugé coupable. Merci Mary Lana. Une autre affaire de jugement avec Hugo et Thibault.
Le 17 octobre 2023, nous avons assisté à des audiences
au palais de justice de Tulle.
Une affaire nous a particulièrement marqué.
Celle d'un auto-entrepreneur accusé de fraude aux assidiques.
Cet homme n'avait pas déclaré son chiffre d'affaires, s'était servi de ses revenus
pour payer ses charges courantes.
Le procureur a demandé la saisie de sa maison
et 6 mois d'emprisonnement avec sursis.
Mais l'avocat de l'auto-entrepreneur
a défendu son client et disait qu'il vivait avec sa fille et son fils dans cette maison.
Et que cet homme n'était pas un professionnel de la délinquance. Cette histoire nous a touchés parce que
il allait perdre sa maison
et qu'il vivait avec ses enfants dedans.
Nous sommes hélas partis avant d'avoir vu
le résultat de la condamnation.
Merci à vous les garçons. C'est avec cette affaire que nous concluons cette émission sur la justice. Je remercie toute l'équipe de Radio Pili et Bram FM. Vous pouvez aussi nous retrouver sur le site internet pili.occe.coupe. Au revoir et bonne journée.
Pili.
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 Par ici les idées.
La radio de l'OCCE.
La radio de l'OCCE.